Je vous propose un enregistrement sur le concile d'Éphèse qui s'est déroulé de juin à septembre 431. Vous trouverez la version écrite à l'espace tradition ou au lien à côté de cet enregistrement. Donc sur cette page, vous avez téléchargé l'enregistrement, vous trouverez un lien vers la version écrite. Donc voici le plan de l'exposé. D'abord le contexte historique, ensuite les décisions importantes du concile, et enfin des pistes de méditation par rapport aux décisions prises au concile. Le contexte historique, introduction. Avec ce concile, un tournant s'opère. En effet, alors que les débats théologiques à l'origine des conciles du 5e siècle portèrent essentiellement sur l'unicité de Dieu, Trinité, divinité du Christ par rapport au Père et du Saint-Esprit, notamment, les questions des théologiens au siècle suivant se focalisèrent plutôt sur la nature du Christ. Le concile d'Éphèse sera un vivant exemple de cette nouvelle tendance. Abordons maintenant les raisons du concile. D'abord, le nestorianisme. La question christologique qui commençait à poindre à cette époque était finalement la conséquence logique des traditions qui s'affrontaient alors par l'intermédiaire des deux grandes écoles de théologie d'Antioche et d'Alexandrie. Ainsi, les deux natures du Christ, divines et humaines, sont-elles strictement séparées, thèse de l'école d'Antioche, ou alors le divin absorbe-t-il l'humain en lui, thèse de l'école d'Alexandrie, auquel cas il y a unité complète des deux natures. Pour couronner le tout, signalons que plusieurs courants existaient entre ces deux pôles. Mais jusque-là, cette différence de tradition n'avait jamais conduit à une rupture, parce qu'aucune des deux tendances n'avait été poussée à son extrême. C'est ici qu'intervient Nestorius. Alors, Nestorius, qui est né en 380 et mort en 451, est un hérétique né à Germanica Caesarea, patriarche de Constantinople en 428. Il fut déposé par le concile d'Éphèse, justement, en 431. Sa doctrine porte le nom de nestorianisme. Il mourra en exil vers 450 en Égypte. Beaucoup de ses disciples se réfugièrent en Perse, où ils créeront leur propre église. Certains prêcheront même jusqu'en Inde et en Chine. Donc, je disais que c'est ici qu'intervient Nestorius. Devenu patriarche de Constantinople à partir de 428, il reprend les thèses de la christologie d'Antioche, mais il pousse la tendance antiochienne jusqu'à ses limites, en niant l'unité de personne dans le Christ, ce qui tout naturellement le conduit à dénoncer le titre de mère de Dieu, Théotokos en grec. Elle n'est que mère du Christ, Christotokos en grec, selon lui. En d'autres termes, affirme Nestorius, Marie est la mère d'un homme dans lequel le Verbe s'est incarné. La nature humaine est la nature divine de Jésus, non d'union que morale. Cette négation fit l'effet d'une bombe, car le culte de Marie était déjà répandu en Orient. Ces déclarations ne pouvaient donc que choquer la piété populaire. L'Église d'Antioche ne pouvait approuver cette thèse radicale, mais dans le même temps, il lui répugnait de donner raison au grand rival de l'Église d'Antioche, le champion des thèses avancées par l'Église d'Alexandrie, à savoir Cyrille d'Alexandrie. Cyrille d'Alexandrie, lui, est né en 380 et est mort en 444. Patriarche d'Alexandrie et docteur de l'Église, né à Alexandrie, il combattit le nestorianisme, dont il provoqua la condamnation au concile d'Éphèse en 431. Donc je disais qu'il répugna à l'Église d'Antioche de donner raison au grand rival de cette Église d'Antioche, donc le champion de l'Église d'Alexandrie et des thèses avancées par l'Église d'Alexandrie, à savoir Cyrille d'Alexandrie. Donc l'atmosphère, une fois de plus, s'alourdit. De son côté, Cyrille d'Alexandrie contre-attaqua, en affirmant avec force l'unité absolue du Verbe incarné. Il en appela même au pape Célestin Ier qui appuya Cyrille. Le pape alla jusqu'à sommer Nestorius de renoncer à ses positions sous peine d'être déposé. Ceci s'est passé en 430, signalons-le. En outre, Cyrille obtint de l'empereur Théodose la convocation d'un concile, ce serait le concile d'Éphèse en 431. Ensuite, abordons la deuxième raison pour laquelle le concile s'est tenu, à savoir le pélagianisme. Une autre hérésie devait occuper les débats de ce concile. Il s'agit du pélagianisme. Certes, cette doctrine ne constitua pas l'essentiel des discussions à Éphèse. Ce fut bien le nestorianisme. Mais il n'en reste pas moins que cette hérésie représentait un réel danger pour l'Église. La preuve en est qu'avant même ce concile, cette doctrine fut condamnée à plusieurs reprises. Par le concile de Carthage pour l'Afrique proconsulaire, en 411 ou 412, et par le concile de Milève pour la Numidie, en 416. Elle fut ensuite condamnée par un synode de Jérusalem, en 415. Un concile de Diospolis, en Lydda, en 415. Et enfin un concile de Carthage, en 415. Donc, ça pour l'Afrique, hein, le 16e concile de Carthage pour l'Afrique proconsulaire et la Numidie. Saint Augustin, lui-même, n'épargna pas ses efforts pour combattre cette doctrine. Cette hérésie trouve son origine chez le moine anglais Pélage, 360-422. En réaction contre le fatalisme et l'immoralisme du manichéisme, ce religieux exalta l'excellence de la création, la libre responsabilité de l'homme et la puissance de sa volonté pour atteindre le bien. Selon sa doctrine, chacun a en lui-même, de par la nature humaine, la force nécessaire pour y parvenir. Dans cette valorisation de la volonté, Pélage minimise en fait la portée du péché originel et le rôle de la grâce donnée par Dieu. Celle-ci se trouve en quelque sorte ramenée au niveau d'auxiliaire de la volonté. Abordons maintenant le déroulement du concile. Se prévalant de directives reçues du siège apostolique, Cyrille le préside. Il en décide l'ouverture le 22 juin 431, sans attendre l'arrivée des légats pontificaux retardés. Il se sait porté par les faveurs du peuple et de nombreux évêques, donc pour la piété populaire en rapport avec la Vierge Marie, je vous renvoie à ce que je viens de dire juste avant. Nestorius, donc lui, fait preuve de maladresse. Son argumentation est confuse et il refuse de comparaître. L'empereur d'Orient intervient en personne dans les discussions, ce qui ajoute à la confusion, d'autant qu'il décide d'emprisonner les deux rivaux, Cyrille et Nestorius. Enfin, et comble de confusion, le concile se scinde en deux, les deux parties se réunissant séparément. D'un côté, Jean d'Antioche, chef de file de l'église d'Antioche, proche de Nestorius, dépose avec ses alliés Cyrille, lors d'un synode. De l'autre, Cyrille et la majorité des évêques excommunient Jean d'Antioche et ses 34 derniers partisans. Ce n'est qu'au bout de 2 ans que Jean et Cyrille parviennent à se réconcilier en faisant un pas vers l'autre, pour restaurer la paix au sein de l'Église d'Orient. Je vous renvoie, je vais en parler plus tard, au symbole d'Éphèse. C'est là où nous voyons cet accord qui a été fait 2 ans après le concile d'Éphèse. Abordons maintenant les décisions importantes du concile. D'abord, le concile condamne le nestorianisme et proclame la maternité divine de Marie, du fait de l'unicité de personne en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nestorius est déposé de son patriarcat de Constantinople. Ensuite, le pélagianisme, pour la première fois, se voit officiellement condamné par un concile œcuménique. Alors je rappelle ce qu'est un concile œcuménique, c'est une assemblée des évêques de l'Église catholique, convoqué par le pape, dans les premiers siècles c'était par l'empereur, mais toujours avec l'accord du pape, afin de régler les problèmes fondamentaux en matière de doctrine, dogme, morale, etc. et ou de réformer l'Église. Il y en a eu en tout 21 reconnus par l'Église catholique plus le concile de Jérusalem mentionné dans les Actes des Apôtres. Donc abordons maintenant, comme je disais, l'impact du concile. D'abord par rapport au nestorianisme. Comme il avait été signalé plus haut dans le chapitre consacré aux raisons du concile, l'unité religieuse ne s'est pas faite autour de la condamnation du nestorianisme, loin s'en faut. En fait, le progrès accompli à Éphèse lors du concile dans la clarification de la théologie concernant la personne du Christ ne devait pleinement apparaître que 2 ans plus tard, dans le texte signé conjointement par Cyrille d'Alexandrie et l'évêque d'Antioche Jean. Dans ce texte, parfois appelé « symbole d'Éphèse », on voit les deux grands courants alexandrins et antiochiens de la théologie se rencontrer dans une vision commune. Dans la personne du Christ, il y a lieu tout à la fois de distinguer les deux natures, divine et humaine, et de considérer leur union sans confusion. Ce symbole représente le dôme des églises chrétiennes dites non nestoriennes, dont les principales églises font partie, Église catholique, Église orthodoxe et mouvement protestant. Malgré cette claire prise de position et malgré la condamnation donc de Nestorius, le problème du nestorianisme n'était pas pour autant complètement résolu. Sa doctrine, en effet, continua à faire des adeptes. C'est ainsi que l'Empire perse s'y rallia, plus pour des raisons politiques que pour des raisons de foi, il faut bien le dire. L'hostilité entre l'Empire perse sassanique et l'Empire romain étant plus vive que jamais. Par l'Église perse, la doctrine nestorienne s'étendit à l'Asie centrale, l'Inde et enfin la Chine. Dans ces régions, le nestorianisme connut son apogée au XIIe siècle. Aujourd'hui encore, il subsiste au Moyen-Orient, en Irak et en Iran, et en Inde, des communautés issues du courant nestorien. Ensuite, voyons l'impact par rapport au pélagianisme. Là aussi, le concile d'Éphèse n'a pas suffi pour résoudre le problème durablement. Au 5e et 6e siècle, la pensée de Pélage nourrira, dans les milieux monastiques gaulois, Cassien, l'abbaye de Vérin, etc., un courant anti-augustinien appelé plus tard semi-pélagianisme. Ce courant ne prendra fin qu'avec la condamnation portée par le Concile d'Orange en 529, soit près d'un siècle après Éphèse. Enfin, abordons le dernier grand chapitre de ce résumé du Concile d'Éphèse, c'est-à-dire des pistes de méditation par rapport aux décisions du Concile. Tout d'abord, par rapport au nestorianisme. L'amour de Dieu. A priori, les querelles sur l'union en Jésus-Christ de sa nature divine et humaine peuvent paraître bien abstraites et fort loin de nos préoccupations quotidiennes. Querelles de théologiens ou byzantines, dirions-nous. Mais si l'on creuse le problème, la question est plus subtile. En effet, implicitement, le fait de nier une union pleine et entière entre la nature divine et la nature humaine du Christ, c'est rabaisser l'homme au rang d'une créature trop vile pour que Dieu daigne s'unir à elle. Eh bien non. Quel amour fantastique de Dieu qui, quoique infiniment supérieur à nous, ses créatures, nous a considérés suffisamment dignes d'être aimés pour se faire l'un des nôtres, au point d'unir totalement, pleinement, sa nature à la nôtre en Jésus-Christ. Avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. Aimer, c'est se donner totalement. Il n'y a pas d'union rabais. Voici une comparaison utile. Quand un homme et une femme s'unissent dans le mariage, c'est dans le but d'avoir une union totale qui se manifestera pleinement par la naissance d'enfants. Eh bien, il en va de même pour Dieu avec nous. Et c'est la bonne nouvelle. Dieu nous aime totalement, il s'unit à nous sans réticence, sans condition, et de cette union naît l'homme nouveau. Quel espoir donc pour la vie éternelle. Dieu, en acceptant par amour une union totale avec nous, se propose de nous diviniser en partageant sa nature divine avec nous, partage qui trouvera sa plénitude dans la vie éternelle. Cette divinisation de l'homme, initialisée et accomplie en Jésus-Christ, n'est pas une invention récente. C'est déjà ce que disaient les pères de l'Église au IIe et IIIe siècle. Écoutez plutôt. Le Verbe de Dieu s'est fait homme. Celui qui est fils de Dieu s'est fait fils de l'homme, pour que l'homme devienne fils de Dieu, en communion au Verbe de Dieu et en recevant l'adoption. Saint Irénée, extrait de son manifeste contre les hérésies. Le Père de l'immortalité a envoyé dans le monde son Fils immortel, son Verbe. Celui-ci est venu vers l'homme pour le laver, l'homme, dans l'eau et l'esprit. Il a fait renaître pour rendre incorruptible son âme et son corps. Il a éveillé en nous son souffle de vie. Il nous a revêtus d'une armure incorruptible. Si donc l'homme est devenu immortel, il deviendra Dieu aussi. Et s'il devient Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, après avoir reçu la nouvelle naissance par le baptême, il sera aussi co-héritier du Christ après la résurrection des morts. Homélie sur la Sainte Théophanie, attribuée à Hippolyte de Rome. Je vous conseille aussi de lire les passages bibliques suivants. Romains, chapitre 8, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Philippiens, chapitre 3, verset 20 à 21. Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 18. Donc, avec la résurrection du Christ, c'est non seulement sa divinité qui retourne auprès du Père, mais c'est aussi son humanité, sa chair, qui fait irruption en plein cœur de la Trinité. Quelle belle profession de foi que cet amour absolu de Dieu! Or, c'est précisément toute cette beauté de l'amour total de Dieu qui est remise en cause par le nestorianisme. Tout comme l'arianisme, qui, en refusant la divinité du Christ, avait indirectement mis des limites à l'amour de Dieu, rabaissant par là l'homme, l'hérésie de Nestorius nous rabaisse. C'est d'ailleurs une constante des hérésies des cinq premiers siècles. Rabaisser l'homme par le refus d'accepter la logique de l'amour fou de Dieu, pleinement manifesté par l'incarnation de son Fils. En réalité, ce refus s'enracine en profondeur dans la réticence que nous pouvons avoir par rapport à l'idée que Dieu puisse nous aimer malgré notre indignité. Finalement, rejeter le nestorianisme, c'est croire que Dieu nous aime quel que soit notre état de péché. Quelle formidable motivation pour repartir du bon pied, quel réconfort dans les moments de solitude et de dépression. Et enfin, je vous propose d'aborder une petite méditation par rapport à la décision du Concile d'Éphèse, toujours en lien avec le nestorianisme, mais cette fois-ci, nous allons braquer les projecteurs sur, ce fait, Dieu se fait proche et agissant en Jésus-Christ. De voir que l'homme en Jésus, conséquence du refus de reconnaître qu'en lui la nature divine s'unit pleinement avec la nature humaine, c'est ramener le témoignage de la vie de Jésus à un simple épisode historique et son message aux conseils moraux d'un sage d'autrefois. La religion devient une simple morale. À l'opposé, ne voir que Dieu en Jésus, conséquence du refus de reconnaître qu'en lui la nature humaine est pleinement unie à la nature divine, c'est admettre que son témoignage à Jésus et sa vie sont hors de portée des humains. La vie quotidienne ordinaire des hommes n'est plus le lieu possible de la rencontre avec Dieu et la religion devient soumission à un Dieu lointain. Je pense notamment à l'islam, qui veut dire justement soumission, enfin le mot musulman. Donc, si on ne voit plus que, comme je le disais, que Dieu en Jésus, donc il n'y a plus ni dignité ni liberté pour l'homme. En revanche, si comme à Éphèse, nous croyons que Marie est la mère de Dieu, nous affirmons du même coup que Jésus est à la fois homme et Dieu, à la fois proche et puissant, compréhensif et agissant. Et enfin, je voudrais aborder un point de méditation par rapport au pélagianisme qui fut donc condamné par le Concile d'Éphèse. Ici aussi, le refus de cette hérésie a une importance certaine sur notre façon d'appréhender la foi et donc de la vivre. Insister sur la capacité de l'homme à se sauver et idéaliser l'homme en fermant les yeux sur sa nature pécheresse, ancrée dans le péché originel, c'est faire preuve d'une grande naïveté et d'un manque de réalisme flagrant. Tous les jours, nous sommes confrontés à la méchanceté de l'être humain, à commencer par la nôtre. Autant être sincères avec nous-mêmes. Sinon, comment pouvons-nous espérer une guérison si nous ne reconnaissons pas la maladie du péché en nous et dans les autres? De plus, vouloir compter sur ses propres forces pour résoudre les problèmes, c'est courir à l'échec. Nous devons humblement et lucidement reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu, ce qui, bien sûr, ne nous dispense nullement de faire notre part du travail. Ainsi, nous instaurons une véritable coopération avec Dieu. Nous agissons, mais sous l'impulsion de Dieu, avec sa force. Sans cette prise de conscience de la grâce et de la volonté de Dieu, nous réduisons Dieu à une abstraction sans réelle existence. Quel dommage! Nous nous privons de la force et de la sagesse du Maître de l'univers, aide qui, pourtant, nous serait plus qu'utile dans la gestion de notre vie quotidienne avec son cortège de soucis et de problèmes. Maintenant, si vous voulez avoir une réflexion sur l'extrême inverse, c'est-à-dire la grâce seule est nécessaire et notre responsabilité et notre liberté ne participent en rien à notre salut, je vous conseille de lire ou d'écouter le résumé du Concile de Trente. Voilà, mais j'espère que cet enregistrement vous était utile. Fin de l'enregistrement.
Free audio post-production by Alphonic.com.